Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Melvin Sauquet-Henry, il est coordinateur régional Bretagne des Jeunes avec Macron et il est avec nous en direct, je l'en remercie, bonjour.
Bonjour.
Alors on va parler de politique effectivement et beaucoup d'actualités politiques avec, on va revenir un petit peu sur ce nouveau remaniement, en tout cas le gouvernement est au grand complet désormais, un gouvernement qui veut aller vite en tout cas si on en croit Gabriel Attal.
Oui, tout à fait, un nouveau gouvernement. Je souhaite du coup en profiter pour adresser en tout cas au nom des Jeunes avec Macron notre félicitation et les félicitations pour la nomination à nouveau de notre ministre breton Hervé Berville avec en plus un portefeuille élargi au-delà de la mer avec la biodiversité. Je pense et nous en sommes certains que c'est un travail qui est reconnu, un engagement sans faille au départ auprès des pêcheurs et désormais aussi pour la transition de nos territoires et l'avenir de notre planète. Au-delà de cette satisfaction de voir Hervé Berville de nouveau dans ce gouvernement, on a en effet un gouvernement resserré, c'était aussi l'objectif de Gabriel Attal, et un gouvernement à la manœuvre et l'envie en tout cas d'enclencher à nouveau des travaux très très vite parce que c'est la volonté déjà depuis 2017 de répondre à des transitions de notre société de manière efficace et Gabriel Attal sera de nouveau à la tâche pour encore améliorer le quotidien de nos concitoyens.
Alors Gabriel Attal qui a plongé dans le grand bain, si vous me permettez le terme, assez rapidement, puisque voilà, tout de suite, première crise, la crise des agriculteurs et de l'agriculture. Crise qui est encore là, hein. Il y a encore beaucoup de concertations actuellement entre les différents ministres et même le président de la République et les organisations agricoles. C'est un dossier très urgent et ça nous touche ici, particulièrement en Bretagne.
Mais forcément, en Bretagne, on est sensible à cette crise, car on est un territoire agricole. Une première crise aussi pour notre Premier ministre, mais je pense qu'il a su montrer aussi la pertinence de son analyse et en tout cas l'accompagnement et l'écoute qui était demandée par les agriculteurs parce que en effet il y avait des revendications nationales, des revendications européennes et il a su en tout cas être à l'écoute avec le ministre Marc Fesneau pour pouvoir en tout cas proposer un certain nombre de mesures urgentes, un certain nombre de réflexions à mener avec les organisations syndicales sur la simplification, entre autres. Hein, on parle du mois de la simplification jusqu'au salon de l'agriculture et aussi des réflexions qui se poursuivront après sur en tout cas l'avenir de notre agriculture, que ce soit au niveau national et forcément aussi au niveau européen.
Alors, on parlera de l'Europe et des élections européennes tout à l'heure, mais justement, est-ce que la clé justement de cette crise, elle est finalement à Bruxelles ?
Pas que, parce que comme je le disais, il y a des revendications nationales et des revendications européennes. Il y a des solutions, et dans les trois salves d'annonces qu'a eu le Premier ministre Attal pour répondre à cette crise, c'était des réponses nationales. Et nous devons en effet être vigilants à notre agriculture en France, à l'avenir de cette agriculture et de fait aussi à la souveraineté alimentaire, parce que c'est aussi ça qui en dépend. Donc il y a des réponses nationales et la loi de programmation agricole qui est aussi en travail avec le ministre Marc Fesneau et désormais aussi Madame Agnès Pannier-Runacher, hein, qui est ministre déléguée, ça montre aussi l'intérêt qu'on montre du coup à l'agriculture avec un ministère qui se veut presque régalien parce qu'il y a vraiment une envie de porter cette agriculture et notre souveraineté alimentaire dans un des combats à venir pour notre pays.
Alors il y a la pêche également qui nous concerne nous aussi ici en Bretagne avec une grande détresse de la pêche aujourd'hui. Est-ce que là aussi Hervé Berville en l'occurrence va devoir prendre le taureau par les cornes et puis avancer sur ce dossier ?
Oui, depuis sa première nomination il y a plus de 18 mois, il a déjà œuvré énormément pour la pêche. Les pêcheurs et les professionnels du maritime en sont la preuve parce qu'ils ont aussi sollicité le fait que Hervé Berville reste leur interlocuteur sur le sujet. Donc ça montre aussi comment il a travaillé et la manière dont il a travaillé avec la filière maritime depuis le départ. Il y a encore des combats à mener, entre autres actuellement, hein, on sait que dans le golfe de Gascogne, il y a une petite crise. Hervé Berville a en tout cas répondu avec le Premier ministre à ces pêcheurs. Mais encore, sur cette situation, il y a un petit peu d'opportunisme, et je me permettrai d'avoir un petit point politique sur l'extrême droite, parce qu'on sait, voilà, Jordan Bardella s'est rendu à Lorient lors de cette crise, et on voit bien que c'est vraiment de l'opportunisme. Monsieur Bardella ne s'est jamais intéressé à la pêche, et il y a une crise, il se présente à Lorient auprès des pêcheurs.
Une forme de récupération politique, ça a été un peu le cas avec les agriculteurs également.
Ça a été aussi le cas avec les agriculteurs, et quand on sait qu'il va auprès des agriculteurs, des pêcheurs à Lorient pour éventuellement montrer son soutien, alors que c'est le Rassemblement National et les alliés de Monsieur Bardella qui ont soutenu le Brexit. Voilà, qui sont potentiellement pour un Frexit, parce qu'ils ont beau dire qu'ils ne le sont plus, si on prend les déclarations sur le fait de sortir des traités, sur le fait de ne pas payer la cotisation à l'UE, c'est un Frexit caché. Donc la situation en tout cas de nos pêcheurs serait encore pire si on suivait les préconisations de M. Bardella. Donc c'est la récupération politique. En effet, nous sommes nous au travail, Hervé Berville avec le ministre Béchu et le gouvernement dans sa totalité sont au travail pour soutenir la filière pêche, et je ne doute pas que les combats à venir seront aussi des réussites pour l'avenir de la filière, notre souveraineté, parce que la pêche c'est aussi notre souveraineté alimentaire, et je ne doute pas qui seront menés à être à l'écoute de cette filière.
Alors il y a aussi l'actualité sociale, elle est assez dense aujourd'hui. Il y a eu un tour de vis qui a été opéré, alors qu'il fait couler beaucoup d'encre. Tour de vis sur la réforme de l'assurance chômage, entre autres, avec la suppression des ASS, l'allocation spécifique de solidarité. Alors en gros, pour faire simple, c'est l'allocation que touchent les demandeurs d'emploi à la fin de leur période d'indemnisation, qui serait à la limite, on demanderait que le statut soit désormais le RSA, avec quand même des conséquences sur les conseils départementaux qui ont en charge le RSA en particulier. Et puis il y a aussi quelque chose qui fait couler également beaucoup d'encre, c'est la modification de la rupture conventionnelle. Est-ce qu'on va vers une politique sociale plus libérale, plus resserrée, si vous me permettez le terme?
Je ne crois pas que ce soit la volonté. En tout cas, le travail qui est mené depuis le début et depuis 2017 par Emmanuel Macron et l'ensemble des ministres et les ministres du Travail qui se sont succédés, c'est véritablement aussi d'accompagner l'ensemble des Français. On le voit, la politique menée a porté aussi ses fruits, parce que on est sur un taux de chômage qui a quand même fortement diminué sur l'ensemble de ces années. Donc ça montre aussi que les politiques menées dans ce sens portent leurs fruits. On a Pôle emploi qui devient France Travail dans un objectif consensuel que l'ensemble des acteurs, en tout cas autour du travail, que ce soit l'ex-Pôle emploi, les missions locales, soient unis pour améliorer l'insertion ou la réinsertion vers l'emploi de l'ensemble des Français. Et donc je ne crois pas et je ne doute pas de l'implication aussi de la nouvelle ministre en charge du travail pour continuer de mener les réformes nécessaires pour notre pays et pour accompagner à l'insertion les Français.
Voilà, mais il y a une perception quand même de dire voilà, on tape un peu sur les plus faibles.
Non, je crois pas que ce soit le cas, et depuis le départ, en tout cas, les politiques menées sur le travail sont dans le sens de cette modification, et je l'ai dit déjà à plusieurs reprises à cette antenne qu'on était sur une mutation de la société, et donc ce qui engendre en effet des politiques fortes, des fois qui sont pas populaires, mais qui sont nécessaires aussi pour l'avenir des Français.
Alors, au volet social, il y a aussi à ajouter cette grève de la SNCF qui tombe bien mal, il faut le dire, en pleine vacances scolaires, en tout cas pour certaines zones ici en France. Est-ce qu'on est un petit peu tenu par les grèves aujourd'hui? On est un petit peu pris en otage?
Je ne sais pas si on est tenu par les grèves, mais en tout cas, c'est un droit. Il faut c'est un droit français et c'est un droit qu'on doit conserver. Là, les revendications et les annonces qui ont été faites par le président de la SNCF aussi sont le fruit d'un dialogue social pour au sein de la SNCF. On se rend compte qu'il y a certaines organisations qui ont reculé sur le fait de faire cette grève, malgré qu'il y a encore un fort taux de grévistes pour ce week-end malheureux pour nombreux Français. Les réponses qu'apportait la SNCF sont le dialogue social, ils sont à la manœuvre. Il y a un droit de grève, mais il y a aussi une obligation de travail. Je crois que je peux reprendre ces mots de notre Premier ministre. Et voilà, il faut aussi savoir se responsabiliser. Et voilà, il y a ce droit, mais il faut aussi le faire en responsabilité pour les Français.
Parce qu'on entend des voix qui disent, ben oui, après, la prochaine grève, ce sera pour les Jeux Olympiques.
Je ne suis pas sûr, et c'est l'objectif du dialogue social. Le nouveau ministre des Transports l'a aussi rappelé hier, que les organisations syndicales ont une responsabilité, tant pour l'image de notre pays, mais aussi pour la réponse aux Français. On a chacun besoin de responsabilité, et je ne doute pas tant du ministre des Transports que l'ensemble des présidents de réseaux de transport qui seront aussi à l'écoute en amont pour anticiper et minimiser, s'il y a ces grèves, l'impact pour les concitoyens.
Alors on va quitter la SNCF et le volet social pour parler de quelque chose qui est aussi important, c'est-à-dire Mayotte. On entend beaucoup parler de cette île qui est en proie à presque une guerre civile, hein, quand même. On a des barrages, on a des violences, on a des morts, il faut le dire. Et Gérald Darmanin s'est rendu à Mayotte accompagné de la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guénévou. Il a fait plusieurs annonces, dont celle-ci, la suppression du droit du sol qui fait couler beaucoup d'encre ici en France, et la fin des titres de séjour territorialisés. Alors, elle a fait couler beaucoup d'encre parce que plusieurs formations politiques ont dit, mais finalement, si on peut le faire à Mayotte, pourquoi pas limiter l'immigration en France en faisant la même chose ?
Alors, c'est pas l'objectif, et en effet, cette réponse arrive aussi dans un contexte où Mayotte a traversé de nombreuses crises majeures, dans un contexte aussi où il y a eu d'autres réponses en amont par le gouvernement depuis 2017 sur la sécurité, avec le doublement des effectifs des forces de l'ordre, sur voilà, l'augmentation des unités mobiles à Mayotte. Donc c'est vrai que cette réponse arrive aussi dans une phase progressive de la réponse. Et en effet, aujourd'hui, malgré un nombre d'actes et de mesures prises par le gouvernement, il y avait besoin d'accentuer et de répondre à cette nouvelle crise. Et cette nouvelle réponse, en effet, est la fin du droit du sol à Mayotte, mais... Ça va être de toute façon travaillé sur la voie constitutionnelle, parce qu'aujourd'hui, de fait, ça peut pas être immédiatement...
Il faut une modification de la Constitution.
Tout à fait, voilà. Complètement. Et voilà, c'est vraiment un objectif aussi de réponse de manière progressive. Et dans les faits, aujourd'hui, ça semble la solution qui doit être mise en place pour répondre à cette crise majeure à Mayotte.
Alors, des mesures qui ne concerneront que l'île.
Tout à fait. C'est ce qui est
à préciser, Gérald Darmanin. Mais voilà, dans un contexte politique qui est ce qu'il est aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend, par exemple, les formations de droite qui disent, voilà, ce serait peut-être bien d'appliquer cette règle ou ces règles à la métropole. Est-ce que c'est quelque chose de dangereux, là, justement ? Est-ce qu'on ne peut pas arriver à quelque chose d'un petit peu incontrôlable ?
Non, parce que du coup, déjà, demain, ça se fait par la voie constitutionnelle. Donc, il y a déjà quelque chose qui... Ça va être déjà bien cadré et régulé. Et le gouvernement est aussi à la tâche pour répondre sur cette problématique qui est largement moindre en métropole. La loi qui a été adoptée et votée en fin d'année en est la preuve, la loi immigration. Donc voilà, on est sensible forcément à ce phénomène, mais le droit du sol de manière générale en métropole doit rester, parce que c'est aussi un point fort de notre démocratie et de notre pays.
Alors, l'immigration, vous avez prononcé le mot qui n'est pas un gros mot.
Non.
Alors, on y vient. Comment faire pour avoir une immigration plus contrôlée peut-être, où l'on puisse accueillir des réfugiés dans de meilleures conditions plutôt que de les voir dormir souvent malheureusement sous des ponts ou pour les plus jeunes d'entre eux errer dans les rues. Est-ce que là, la réponse est européenne finalement? Est-ce qu'il faut que chaque pays européen s'entende pour prendre sa part de migrants qui viennent sur notre continent?
Et bah, encore une fois, il y a une réponse nationale et une réponse européenne. Une réponse nationale et la dernière loi que je viens de mentionner qui a été votée par le Parlement en fin d'année est une réponse nationale pour avoir cette régulation et en tout cas, voilà, anticiper et permettre une meilleure intégration. C'était aussi l'objectif. Hein. Il y avait un objectif, en effet, de régulation, mais surtout d'intégration. Et il y a une réponse aussi européenne. Le pacte asile et immigration en fait partie. Donc, il y a en effet des réponses nationales et il y a des réponses européennes pour que l'on puisse ensemble aussi être en capacité d'améliorer l'arrivée, l'intégration et en tout cas l'intégration aussi au sein de l'Europe, parce qu'on a accentué sur l'intégration en France, mais nous sommes en tout cas chez les jeunes avec Macron pro-européens, et donc ça nous semble aussi important d'avoir une véritable intégration européenne.
Alors, intégration européenne, et puis il y a une crainte, on voit aussi la montée de l'insécurité, et souvent quand on dit insécurité, on pense immigration. Alors, le débat est vaste, évidemment, mais là aussi, il y a des faits divers, parfois, qui font peur. Il y a une peur de l'immigré aujourd'hui, de celui qui vient sur le territoire que l'on accueille, qui peut potentiellement être un terroriste, est-ce qu'il y a cette peur-là? Est-ce qu'il faut essayer de la comprendre, cette peur-là, de la part de Français?
Alors, je pense qu'on l'a compris, et c'était aussi l'objectif de cette loi immigration, c'est aussi l'objectif de ce pacte asile-immigration au niveau européen. Après, ne faisons pas aussi de généralité, et c'est là-dessus aussi que l'on insiste, parce que c'est pas de fait à chaque fois des personnes immigrées qui sont l'objet d'armes insécuritaires dans notre pays. Donc, faut pas faire l'amalgame.
Je parlais d'un ressenti d'une certaine partie de la population. Il s'agit pas évidemment de faire.
Mais je pense que malheureusement aussi le Rassemblement National et les extrêmes droites, entre autres, jouent sur ce point et jouent sur cette peur pour malheureusement gagner des voix. Et c'est encore de l'opportunisme politique. De la récupération, comme ils le savent très bien le faire. Et voilà, à nous de prouver et de défendre ces différentes lois et aussi véritablement l'intégration sera et permettra une meilleure compréhension et une meilleure intégration tout simplement dans notre pays.
Alors, vous avez parlé du Rassemblement National et plus largement de l'extrême droite. Oui. Ça nous amène aux élections européennes. Il y a eu ce sondage, même ces sondages plutôt récents, qui donnent des intentions de vote assez élevées pour le Rassemblement National de Jordan Bardella, entre autres. Et est-ce que c'est quelque chose, vous qui êtes pro-européen, est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Je pose souvent la question, on espère avoir la réponse aussi du Rassemblement National dans ce sens-là, mais la question aux invités, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, ces intentions de vote, cette montée finalement du vote Rassemblement National?
Forcément, ça nous inquiète et ça m'inquiète moi aussi en tant que jeune, en tant que pro-européen, parce que, en tout cas, les idées et le projet que défend Emmanuel Macron et l'ensemble de la délégation française en Europe sont aussi dans l'objectif de préserver les Français, et on se rend compte que les différents votes et les différentes positions du Rassemblement National, entre autres, et de Jordan Bardella, sont contre les Français. Il a beau sur TikTok ou sur d'autres médias ou en plateau se dire un grand défenseur des droits des femmes, Jordan Bardella s'est abstenu pour la rémunération égale entre les femmes et les hommes au niveau européen. Il a beau se dire non homophobe, Jordan Bardella a voté contre le fait que l'Europe soit une zone de liberté LGBT. Donc, un moment, remettons aussi les pendules à l'heure, si je puis dire, et c'est aussi à nous, en tant que jeunes avec Macron, de montrer la réalité de la position de Jordan Bardella et des votes de son groupe. Si on reprend la politique agricole commune, c'est pareil. Il se dit en effet qu'il a voté pour la politique agricole commune, il a voté pour le cadre réglementaire, mais... De fait, il a voté contre le budget 9 milliards d'euros pour les agriculteurs, où il a voté contre, et il va auprès des agriculteurs, auprès des tracteurs sur les derniers blocages. Donc voilà, il y a vraiment un opportunisme politique qui est aussi à nous de défendre et de montrer, en tout cas, les effets néfastes que serait le Rassemblement National au pouvoir et aussi en plus grand nombre, en tout cas, à l'Union européenne.
Alors, on ne va pas faire de jeunisme sur cette antenne, bien vous soyez jeune, Melvin Sauquet, mais on voit quand même une espèce d'affrontement des jeunes aujourd'hui. Une page politique se tourne indéniablement. Jordan Bardella, le Premier ministre, Gabriel Attal, tout juste 35 ans. Est-ce qu'on rentre dans une nouvelle politique qui va avoir aussi des influences certaines sur les décisions et sur des décisions peut-être plus sociétales? Est-ce qu'on tourne une page finalement?
Je ne sais pas si on tourne une page, mais en tout cas la volonté d'Emmanuel Macron aussi, avec le fait d'avoir nommé Gabriel Attal, c'est de répondre aux inquiétudes et aux défis de la société. Et donc tant mieux que ce soit Gabriel Attal, il y a une autre sensibilité de fait sur un certain nombre de mesures et de transitions à réaliser. Mais oui, on ne peut que se satisfaire aussi lorsque les personnes sont compétentes de retrouver aussi de jeunes personnes engagées depuis longtemps, en plus, entre autres pour Gabriel Attal. Je m'abstiendrai de faire des commentaires de fait sur M. Bardella, parce que voilà, j'ai énuméré un certain nombre de votes et je pourrais continuer. Voilà, c'est... En tout cas, nous, on se satisfait de que M. Attal soit Premier ministre. Il en a pleinement les compétences. Il sera aussi mener cette équipe gouvernementale pour pouvoir mener les défis à venir et aussi être à la tête, en tout cas, voilà, de cette majorité française.
Alors, on parlait de défis sociétaux aujourd'hui. Gabriel Attal, dans son discours de politique générale, a fait ce que fait rarement un Premier ministre. Il a dit, voilà, je suis homosexuel, je suis compétent, je suis capable. Ce qui a d'ailleurs fait beaucoup rire, parce que, allez, pour nos auditeurs, une petite anecdote. Au même moment, au Sénat, un ministre qui n'avait pas tout à fait le même âge que Gabriel Attal lisait, j'allais presque dire, en temps réel, son discours. Et ça fait quand même sourire tout le monde. Mais au-delà de la blague et de l'anecdote qui concernait Bruno Le Maire, vous l'aurez compris, au-delà de la blague et de l'anecdote, on a l'impression que là aussi, un tabou tombe, une page se tourne. C'est normal de vivre sa vie personnelle et d'être aussi compétent au poste de Premier ministre. Est-ce que pour vous, ça vous a frappé justement cette ouverture?
Alors, frappé non, mais satisfait oui, parce que... En plus, sur les combats que nous menons, et d'autant plus face à l'extrême droite, je pense qu'il était plutôt intelligent de mettre en avant aussi ce point-là.
Ça devait être approché, hein,
de sa vie privée, mais, mais ce qui permet aussi de montrer que les combats que nous menons sont des combats réels et que c'est aussi pour l'avenir de notre société, que ça sera aussi dans le pluralisme de notre société. Donc... Je doute que ça a dû faire grincer des dents une certaine partie de l'hémicycle, ce que je regrette, parce que voilà, si je peux me permettre de rendre un hommage du coup à Robert Badinter, qui...
Alors on allait y venir, mais vous m'avez devancé, c'est très bien.
qui a au-delà du grand combat sur la peine de mort, a aussi dépénalisé l'homosexualité. Voilà, c'est je pense en tout cas un bel exemple aussi d'engagement et pour l'avenir de notre société. Je sais qu'on pourra aussi compter sur ce Premier ministre-là, même si ça, en effet, fait grincer des dents un certain parti.
Gabriel Attal, Robert Badinter, alors les combats ne sont pas les mêmes, évidemment, la maturité non plus. Robert Badinter est mort très âgé. Vous étiez sans doute jeune, évidemment, quand Robert Badinter s'est retiré des affaires, comme l'on dit. Brillant avocat, bel hommage qui a été rendu par la République, par le président de la République également, à Robert Badinter. Hommage où on a une petite fausse note. La famille de Robert Badinter avait demandé que LFI et le Rassemblement National n'y participent pas. Le Rassemblement National a suivi la consigne, si vous me permettez le terme. Pas et des filles, ça vous a choqué ?
Choqué, en tout cas, le protocole veut que le président de la République invite l'ensemble de la représentation nationale. En tout cas, personnellement, et là je parle vraiment en mon nom, je trouve dommage que LFI n'ait pas respecté ce choix de la famille. Après, voilà, ils avaient reçu aussi l'invitation, donc ils ont fait le choix d'y venir. C'est leur choix, mais voilà, pour la famille de Robert Badinter et pour les combats qu'il a menés, voilà, à titre personnel, je regrette, mais voilà, je m'abstiendrai d'aller plus loin sur cette réflexion. Mais en tout, ce que l'on peut retenir, c'est que on a pu rendre aussi hommage à un grand homme, un grand politique qui a mené de grands combats, et le discours du président de la République a su rappeler ce parcours et les différents combats qu'il a menés, des fois aussi impopulaires au départ, mais qui a su permettre aussi de répondre aux transitions et aux combats de la société. Donc voilà, ça a été un très bel hommage, et je pense que la fin de son discours au président de la République montre aussi en tout cas l'intérêt que l'on doit et l'attention que l'on doit porter à monsieur Badinter, et voilà,
Alors Robert Badinter qui sera peut-être un jour au Panthéon, en tout cas le vœu présidentiel a été lancé. Est-ce que c'est une source d'inspiration pour les jeunes générations comme vous, qui n'avez pas forcément connu Robert Badinter en activité, mais est-ce que c'est une source d'inspiration politique, par exemple ?
Mais forcément, parce que lorsqu'on parle de politique, on parle de combat, et de combat pour la société, et de combat pour l'avenir des concitoyens et notre avenir, surtout en tant que jeune. Et les combats que Robert Badinter a menés, tant sur l'abolition de la peine de mort que sur la dépénalisation de l'homosexualité et tant d'autres sujets autour de la condition carcérale. Voilà, il a mené énormément.
Lutte contre l'antisémitisme également.
Oui, tout à fait. Donc forcément, et sans plus Il dérogeait, si je puis dire, il a toujours gardé la même ligne, et donc de fait c'est admirable, et on le garde dans un petit coin de la tête pour continuer à mener des combats pour notre société. Oui,
on a une société qui est fracturée, qui est de plus en plus fracturée aujourd'hui, une société qui a du mal à parler, à échanger, à vivre finalement, le fameux vivre ensemble. On en parle beaucoup, mais un peu à toutes les sauces, mais on a une société fracturée, puis on a le retour de vieilles haines qu'on croyait mortes et enterrées. C'est le défi de demain pour la jeune génération. Allez, en à peine 2 minutes, voilà, c'est un peu le sujet du bac.
Oui, c'est le défi de demain. En tout cas, les combats et les différentes réformes qui ont été menées aussi par ces gouvernements sont dans l'objectif d'améliorer l'avenir de notre société, tout en préservant l'information. Et je me permettrai juste du coup de faire un petit point sur la désinformation que notre eurodéputé Raphaël Guzman a pu avoir sur l'aspect du viol ou l'inscription du viol dans la directive sur la protection du droit des femmes. Voilà, c'est très regrettable pour un politique de cette taille de lancer une telle désinformation, parce que non, Emmanuel Macron n'a pas voulu bloquer la criminalisation du viol. Pardon, c'est juste que nous, en France, aujourd'hui, on a une loi qui est beaucoup plus forte et qui prend vraiment cet aspect de consentement, et au-delà du consentement, de tout ce qui va au-dessus, que ce soit les violences, l'intimidation, etc. Donc véritablement, voilà, on a des défis et aussi des défis d'information et contre la désinformation.
Alors la désinformation, l'information, en vraiment 15 secondes, on a ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire CNews avec Reporters sans frontières qui a saisi l'ARCOM et qui a saisi aussi le Conseil d'État. Le Conseil d'État a rappelé un peu l'ARCOM à ses obligations et lui a demandé d'appliquer une loi peut-être un peu plus ferme quant à la représentation de la parole politique en particulier sur CNews. Est-ce que c'est pas dangereux d'avoir un peu entrouvert la porte ?
En tout cas, sur lequel je milite, c'est la pluralité des médias et la liberté d'expression.
Et c'est là-dessus que l'on va terminer. On est très en retard. Melvin Sauquet-Henri, coordinateur régional Bretagne des Jeunes avec Macron, était avec nous en direct ce matin. Je l'en remercie.
Merci
très belle
beaucoup.
Journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.